Louis-Philippe d'Alembert, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter cet entretien pour le site de La Danse des Mots. À propos du dernier livre que vous avez fait paraître chez votre éditrice, c'est Sabine Vespizer, et le livre s'appelle « Une histoire romaine » qui propose un croisement de deux histoires familiales tout au long du XXe siècle avec une généalogie essentiellement féminine et l'histoire de deux familles. L'une qui est catholique, aristocrate, à la splendeur un petit peu ternie, et d'abord représentée par la comtesse, et l'autre qui est juive, représentée par la tante Rachel. Et donc ces deux personnes tout à fait importantes, on va découvrir leur vie, mais rétrospectivement, c'est-à-dire qu'on les prend alors qu'elles sont déjà âgées et qu'on remontera le cours de leur existence. En revanche, on va s'intéresser à la fille de la comtesse, Elena, qui va épouser le neveu de Rachel. Et ensuite, on s'intéressera à la petite fille de la comtesse, c'est-à-dire Laura, la fille d'Elena. Tout ça se passe à Rome, de part et d'autre du fleuve qui traverse la ville, c'est-à-dire le Tibre, puisque l'une des demeures est située dans ce beau quartier du Prati, et l'autre sur la Via Giulia. Et tout ça est écrit en français, dans un français émaillé d'italien, avec des mots, quelques phrases, des paroles de chansons que vous arrangez pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il y a une petite traduction. Donc, il n'y a pas de problème pour comprendre ces éclats italiens qui parsèment votre langue française. Mais c'est quand même ma première question. En quelle langue est-ce que vous écrivez? Est-ce qu'on peut parler d'un français émaillé d'italien, Louis-Philippe d'Alembert?
Ouais, là, il faudrait dire un français émaillé d'italien quand il s'agit d'Italie, de créole quand il s'agit d'Haïti, d'anglais quand il s'agit des États-Unis, et comme dans Milwaukee Blues, par exemple. Mais en fait, j'écris en d'Alembert, tout simplement. Et je crois que le rêve de toute écrivaine ou tout écrivain, c'est de trouver sa propre langue. Même quand on est complètement monolingue, on arrive à trouver une langue qui ne soit pas celle de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une petite musique qui fait que quand on lit, on se dit tiens, ça c'est du Proust, ça c'est du Céline, ou ainsi de suite. Justement, dans un roman comme une histoire romaine, c'était d'arriver à injecter assez de la culture italienne dans cette langue française pour que cette langue française résonne avec cette musique italienne. Parfois des phrases très très longues que j'ai reprises d'une certaine écriture italienne. Donc j'ai essayé de m'inspirer en fait de cette langue italienne-là pour écrire une histoire qui est pour moi une déclaration d'amour à la ville de Rome, au plus proche de ce que je suis moi aussi en tant qu'individu, quoi.
Est-ce que vous la parlez beaucoup, cette langue, quand vous l'écrivez? Parce qu'on sent bien cette langue à méandre, où on entend de l'italien, derrière peut-être un peu de latin, parce que c'est une langue très syntaxique.
Ah oui, tout à fait, on l'entend cette langue-là. Et on sait que l'italien, comme le français, mais peut-être encore plus l'italien, c'est une langue latine. J'avais eu la chance d'avoir fait beaucoup de latin. Donc, qui fait que quand j'ai appris l'italien, j'ai découvert avec une certaine aisance des tournures ou des mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais appris en italien, mais qui me sont venus de manière spontanée, de manière évidente, en fait, grâce au latin.
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au point de vue du vocabulaire, il y a parfois quelques archaïsmes qui probablement ont un rapport avec l'italien et le latin. Plusieurs fois, par exemple, au lieu de parler de colère, vous dites « lire ». Souvent de fois, dites-vous à d'autres moments, ces réminiscences, elles vous viennent de l'italien ou du latin ?
Les deux, et ce sont des réminiscences conscientes, parce que je voulais assumer cet héritage, en fait, italien et latin. Par exemple, dans la langue contemporaine, la langue parlée, les gens emploient le passé simple, ce que nous ne faisons pas en français. On dirait que c'est précieux dans le meilleur des cas. Donc, je voulais que la langue française que j'employais résonne de cette utilisation de la langue italienne. Donc, ensuite, il y a des langues régionales ou des dialectes qui sont encore très vivantes. Donc, le romain, donc j'ai essayé de l'utiliser au maximum. Et dans le roman, il y a tout un débat autour d'un autre roman de Carlo Emilio Gadda, l'Afro-pastis de la rue des Mers, là ça a été traduit comme ça en français, la comtesse intervient avec sa fille, une discussion très tendue sur l'utilisation du dialecte romain dans la littérature. Pour elle, ce ne serait pas de la littérature, c'est une langue vulgaire. Donc ça c'est un deuxième registre. N'oubliez pas que le roman traverse tout le XXe siècle. Il fallait que la langue puisse traduire cette réalité-là.
Alors, c'est très sensible dans votre roman. Est-ce que je peux vous demander d'en lire un court passage ?
Le romanaccio, que certains voudraient différencier du romanesco, qui serait le parler authentique du petit peuple romain, était interdit de séjour en la demeure de la comtesse. Pour elle, c'était du pareil au même, à savoir un dialecte grossier, à l'usage d'individus incapables de s'exprimer correctement, surtout tombé des lèvres d'une femme, comme sa fille prenait un malin plaisir à le faire, rien que pour la mettre en rogne. À se demander si ces gens-là ne faisaient pas exprès, par esprit de contradiction, voire de rejet de ceux qu'ils nommaient les nantis, pour peu que tu formules une idée avec justesse, sans te mettre à brailler comme si tu t'adressais à quelqu'un situé à 5 km de distance, que tu ne te goinfres pas à table en émettant des grognements dérangeants aux oreilles de tes voisins, en un mot, que tu aies un minimum de manières qui ne soient pas celles de la plèbe. Et si ce gadda avait voulu tourner en dérision les Romains ? Cela n'aurait été guère surprenant venant des Lombards, l'année de surcroît où elle avait dû prendre la lourde décision de se débarrasser d'un trésor familial. La comtesse se poserait la question, même quand son cerveau brumeux confondrait le prénom de son unique fille et celui de sa petite fille, Laura.
Louis-Philippe d'Alembert, on a compris que vous parliez l'italien. Vous avez vécu en Italie, à Rome. Ce romanaccio, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que parfois vous le parlez? Quel est votre rapport avec cet autre italien qui est en filigrane d'un italien plus fédéral, disons?
Ah oui, bon, c'est une langue que j'adore. J'ai un ou deux amis comme ça italiens qui sont de Rome avec lesquels on prend plaisir à parler cette langue-là. Et quand on se rencontre, on prend plaisir à parler en romanaccio. C'est une langue que les Italiens qui ne sont pas de Rome trouvent un peu vulgaire. Peut-être le fait que je ne suis pas né dedans, je n'ai pas grandi avec cette langue-là, donc elle m'amuse. Et pour moi, c'est autant de détours, de possibilités de dire les choses d'une autre façon. Je l'ai utilisé justement en tant que, j'ai envie de dire, langue de résistance ou de rébellion. C'est-à-dire que Elena, quand elle s'oppose à sa mère, la comtesse, qui est une femme qui vit dans un autre siècle, pratiquement dans la nostalgie d'un certain passé, et Elena emploie cette langue-là pour s'opposer à sa mère, pour se rebeller. Mais il n'y a pas que la langue, il n'y a pas que le vocabulaire, il n'y a pas que la syntaxe, il y a aussi un accent. Et l'accent romain qui n'est pas justement l'accent lombard, qui n'est pas l'accent napolitain, qui n'est pas l'accent sicilien, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est très vivant. Et pour un écrivain, c'est du pain béni.
Qu'est-ce que vous appelez du pain béni pour un écrivain ?
Non, le fait d'avoir une langue comme ça qui soit en résistance par rapport à une langue officielle, et nous, justement, on a la possibilité de pouvoir naviguer entre la langue officielle et les diverses langues interdites de séjour dans certains milieux ou dans certains salons. Donc, on n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que cela traduise les conflits ou les tensions de classe, mais aussi de culture qui peut être en œuvre à l'intérieur d'une société.
Alors même qu'on l'entend et qu'on la lit très peu, cette langue dans le roman, vous en parlez, vous la présentez, mais vous n'utilisez pas un français qui en soit l'image. Ça ne ressemble pas à du gadda, à ce roman magnifique et magnifiquement traduit. C'est un roman de la langue. Vous, non. Vous écrivez ça dans un français beaucoup plus littéraire, d'une certaine façon.
Oui, la différence entre l'Afro-pastis de la rue des Mers et une histoire romaine, c'est que l'histoire se déroule à une période donnée, bien déterminée. Il y a un crime, on essaye de trouver l'assassin, et ainsi de suite. Alors que là, nous avons une histoire romaine, un livre qui traverse plus d'un siècle d'histoire. Forcément, la langue évolue, et ça aurait été extrêmement difficile d'arriver à trouver une langue populaire comme ça. Donc ensuite, j'avais un autre projet, l'idée dans une histoire romaine, de donner à lire la ville de Rome presque comme un personnage, la Rome éternelle et la Rome du XXe siècle jusqu'à la date plus ou moins de la chute du mur de Berlin. Donc ça aurait été difficile de donner cette image d'une Rome éternelle en passant par l'évolution d'une langue sur plusieurs siècles, en fait. Donc il n'y avait qu'une langue plus ou moins classique, même je dirais, où j'emploie parfois au début le subjonctif imparfait, le passé simple, le subjonctif imparfait. Et quand j'arrive vers Laura, la langue se relâche un petit peu plus à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire il y a une vraie évolution de l'utilisation de la langue française dans le roman. Partir d'une langue très très classique pour aboutir à une langue un peu plus contemporaine, un peu plus moderne, quoi.
Alors Louis-Philippe d'Alembert, il m'a semblé en lisant une histoire romaine qui avait en filigrane de votre texte quelques films. Le premier auquel on pense, bien sûr, c'est la Dolce Vita, ne serait-ce que parce que le cœur du livre se situe autour de l'année 1957, c'est le mariage d'Elena, c'est le miracle italien. Même dans des détails, Giuseppe, il a une Alfa Romeo grise, ça fait très Fellini, ça fait très cinéma. Mais là encore, il y a un autre film que m'a évoqué votre texte, c'est « Une journée particulière ».
Et oui, c'est-à-dire une journée particulière, donc bien sûr la Dolce Vita, ensuite Una giornata particolare, comme on dit. C'est un film de Ettore Scola qui, pour moi, c'est le dernier grand film de Sofia Loren. Et avec Condi Marcello Mastroianni, le jour où Hitler visite Rome et puis tout. La ville va, bien sûr, au meeting qui est fait pour saluer l'arrivée de Hitler. Et puis, ces deux personnages, donc Marcello Mastroianni, qui se retrouve à la maison et qui travaille à la radio, justement, mais qui est chassé parce qu'il est homosexuel. Et puis, elle, qui est mère de famille, dont le mari est fasciste, etc. Donc, ils vont se retrouver enfermés dans une espèce de huis clos, et où ils parlent de la vie en général, en fait, et de leur frustration à tous les deux. Je n'ai pas parlé expressément de ce film-là, mais qui était tellement présent pour moi dans le livre, parce que justement, je voulais me tenir à distance, parce que si je commençais à en parler, et j'aurais peut-être débordé un peu trop. Donc c'est quelque chose qui est là, qui résonne dans le livre. On ne peut pas faire autrement quand on a connu l'Italie, ou la Dolce Vita, toute la vie que mènent ces personnages-là, avec la musique, les boîtes de jazz, et puis le cinéma, ou les voitures dont vous avez parlé, l'Alfa Romeo, tout ça. Je voulais traduire cette atmosphère-là, qui soit à la fois, et bien sûr, fellinienne, donc c'est-à-dire datée d'une certaine façon, mais en même temps et de la Rome italienne, en fait.
Et puis les laisser pour compte, ceux qui se rendent compte que justement, ils sont à l'écart, comme les personnages de Sofia Loren et de Mastroianni dans ce film merveilleux, qui est une journée particulière, qui se retrouvent parce qu'ils sont à l'écart de ce qui va susciter toute la fougue fasciste.
Oui, même si l'histoire, c'est les deux familles sont deux familles assez aisées. La famille de la comtesse est un peu sur le retour, en fait, mais la famille de Giuseppe est assez aisée. Mais pour moi, les laissés pour compte sont là déjà au moment de la Seconde Guerre mondiale, où un certain nombre de personnages vont se retrouver persécutés à cause de leur religion, à cause de leur sexualité, ou parce qu'ils sont déserteurs, et ainsi de suite. Et le petit peuple italien, pour moi, c'est important aussi, c'est-à-dire une ville ou une société existe dans toutes ses composantes. Il y a tout autour le petit peuple qui est là, et représenté entre autres dans le roman par le personnage du concierge. Parce que les personnages de concierge en général dans la littérature ou dans le cinéma
sont toujours réactionnaires.
Voilà, justement, c'est toujours des personnages un peu réactionnaires, du petit peuple réactionnaire, et ainsi de suite. Et moi, je ne voulais pas de ça. Je voulais quelqu'un qui soit stéréotypé, c'est que c'est un concierge dans le sens français du terme. Et ce qui m'a permis aussi de développer l'idée de rapport de classe, en fait. Hein. Donc, Tante Rachel, qui est d'une famille très aisée, et le concierge, et parce qu'il n'y a de Rome, je parle de la ville, sans ce petit peuple-là, en fait. C'est-à-dire que le petit peuple romain, justement, ceux qui parlent plus volontiers le romain, qui apportent toute la saveur aussi à cette ville de Rome, par son intonation, sa gestuelle, et ainsi de suite. Donc, pour moi, il était important que ce petit peuple figure aussi dans le roman.
Le Philippe d'Alembert, bien entendu, histoire romaine, est une fiction. Mais je crois que vous avez beaucoup travaillé pour vous documenter avant de l'écrire et vous raconter des choses dont je pense qu'elles sont authentiques, mais qui sont particulièrement savoureuses. En particulier, comment cette famille juive a été sauvée pendant la guerre par une partie de l'Église qui les sauve en inventant quelque chose de formidable, c'est-à-dire en inventant une maladie imaginaire. Racontez-nous un tout petit peu ça pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu votre livre.
En fait, ce ne sont pas les curés qui ont inventé cette maladie, ce sont trois médecins. C'est vraiment un fait authentique. Hein. C'est trois médecins dont le chef de l'hôpital Fate Bene Fratelli, c'est un hôpital qui se trouve sur l'île Tibérine, donc au cœur de Rome, sur lequel se trouve un hôpital tenu par des frères et des sœurs et catholiques. Et ce docteur Borromeo et deux autres médecins, pour sauver des vies de gens qui sont persécutés par le régime, ont décidé d'inventer une maladie contagieuse qu'ils appellent le syndrome K. Et le K, c'est la première lettre du nom du chef de la Gestapo à Rome, Kappler, et du chef de la Luftwaffe, qui est Kesselring. Donc, ils ont dit ce syndrome K, c'est une maladie dégénérative, extrêmement contagieuse, et on en meurt d'atroces souffrances et douleurs, et ainsi de suite. Et ça leur a permis de réserver une aile de l'hôpital pour sauver, justement, des résistants, des juifs, des homosexuels, comme je l'ai dit, comme on dit tout à l'heure, et après, de les exfiltrer pour qu'ils puissent échapper aux lois raciales qui avait été publié en Italie en septembre 1938. Et cette maladie imaginaire a permis de sauver mais vraiment des centaines de vies pendant cette période-là.
Et tout ça se passe d'ailleurs dans cet hôpital que vous venez de signaler, qui est sur l'île Tibérine. Donc on est en effet au cœur de Rome, mais on est en même temps nulle part. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la rive droite et on n'est plus sur la rive gauche, puisqu'on est au milieu du Tibre, dans l'œil du cyclone, le plus apparent et le plus invisible.
Oui, on est au cœur, vraiment au cœur de Rome. On peut difficilement trouver les pires et meilleures cachettes. Il ne viendrait pas à l'esprit des SS de venir chercher là. Ils l'ont fait quand même. Et il se trouve que le directeur, le docteur Borromeo, parlait très bien allemand. Donc, il a fait visiter l'hôpital et tout. Et puis, arrivé devant le pavillon où il y avait les gens protégés, la maladie a été décrite avec tellement de détails et les risques que ça pouvait engendrer. Et c'est comme ça que, dans le roman, toute la famille de Giuseppe a pu échapper à la rafle.
Le Philippe d'Alembert, il y a une bande-son aussi à votre roman. Il y a des chansons. Il y en a une très connue qui est « Voifa l'Americano ». Elle est en romain ou elle est en italien, cette chanson?
Non, elle est en napolitain.
Ah, elle est en napolitain.
Oui, c'est une chanson qui a été connue dans l'immédiat après-guerre. Et les alliés arrivent dans la ville et ils apportent aussi un certain mode de vie. Tout le monde veut faire l'américain ou l'américaine. On boit du whisky soda, on veut danser le twist, et rock and roll, et ainsi de suite. Mais Giuseppe, dans le roman, va découvrir quelque part les péchés aussi des États-Unis. Parce qu'il se rend compte que les soldats libérateurs des États-Unis, entre les noirs et les blancs, ils ne se mélangent pas. Et ils vont dans des boîtes, mais les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Et lui, il se pose la question en se disant, mais tiens, ces gens-là qui sont venus nous libérer de la fureur raciste d'Hitler, et est-ce qu'eux-mêmes, chez eux, ils pratiqueraient du racisme aussi? Donc, il découvre ça, il en est ébahi, mais bon, il a quand même gardé cet amour pour le pays qui les a en partie libérés, en fait.
Et dans la tête, ce beau thème de Laura, qui est une chanson, c'est un standard interprété par beaucoup de gens, et en particulier, on a demandé à Charlie Parker de jouer Laura avec des cordes. Ça aussi, ça baigne votre roman.
Oui, c'est parce que je suis, je peux le dire, un grand fan de jazz, en fait. Et pendant toute la période de l'après-guerre, l'Italie découvre les États-Unis. Donc le jazz est là, le jazz traverse tout le roman, notamment à travers un groupe qu'on appelle 13, qui était un groupe italien très très connu. Et puis donc, c'est vraiment une période où l'Italie se reconstruit aussi. Donc il y a eu un débordement d'énergie qui est dans le cinéma, qui commence avec un film comme Rome, ville ouverte, en fait. Il fallait que cette Italie-là, cette Rome-là, surtout, soit vue, entendue et lue dans le roman.
Alors, une dernière question, Louis-Philippe d'Alembert. On a vu que derrière votre livre, il y a des films, il y a des musiques, il y a des livres. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnages. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des citations. Il y a l'ombre d'un personnage qui passe. De Gaulle, par exemple. À un moment, vous employez ce mot de chienlit. Quand on entend le mot de chienlit, bien sûr qu'on pense à De Gaulle. Mais un peu avant, vous dites, ce n'est pas à mon âge qu'on va commencer une carrière de dictateur. Citation gaullienne, évidemment.
Oui, bien sûr. Et pour moi, l'histoire participe de ce que nous sommes tous et toutes, hein, en fait. Et en même temps, tout à l'heure, quand on a démarré la conversation, on parlait de langue française. Quand on emploie le mot chien-lit, forcément, on pense au général de Gaulle. Quand on dit que ce n'est pas à mon âge que je vais démarrer une carrière de dictateur, forcément, on pense au général de Gaulle. Donc, c'est...
Tout le monde n'y pense pas. C'est-à-dire que c'est un clin d'œil pour ceux, justement, qui peut-être ont entendu ces mots-là et connaissent ces phrases.
Tout à fait, c'est-à-dire tout le monde n'y pense pas et en fait, si on ne connaît pas, ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas un étalage d'érudition, hein, un roman. Et si je fais une citation, je fais un clin d'œil, il faut que ce clin d'œil-là soit bien inséré dans l'histoire que je raconte. Ce n'est pas pour dire, tiens, voilà, je...
Mais c'est ça qui peut éveiller l'attention du lecteur, parce qu'à partir du moment où j'ai compris, par exemple, qu'il y avait quelques citations gaulliennes. À partir du moment où j'ai vu la citation de Castro, l'histoire m'absoudra ou ne m'absoudra pas, je me suis dit, c'est un livre à piège. Il y en a deux ou trois que j'ai vus, il y en a sûrement 15 que je n'ai pas repérés.
Je m'amuse, en fait. Mais ce livre-là, je voulais vraiment que ce soit un livre à caractère presque jouissif, en fait. J'avais envie d'un roman, de quelque chose de très de jubilatoire, dans les mots, dans la musique, dans les personnages même, en fait, dans toute l'histoire que j'ai racontée.
Eh ben, merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert, de nous avoir parlé de façon si enthousiaste et si incitative d'une histoire romaine qui vient de paraître aux éditions Sabine Vespizère.